RMC, After Espagne,
Nicolas Jamain.
Salut à tous, bienvenidos a todos, bienvenue dans l'After Espagne pour évoquer l'actualité de la Liga, tous les clubs de Liga chaque semaine, vous le savez. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous regarder également sur les plateformes de téléchargement, également sur les box SFR notamment, Free, Orange, vos télés connectés, RMC, BFM Play, YouTube aussi, et puis sur After Foot TV, évidemment, comme chaque semaine pour m'accompagner, Rémi Dumont, journaliste, rédaction RMC Sport. Salut Rémi.
Salut Nico, ça va?
Ça va, t'as préparé le 3 jeux de mots cette semaine ou pas?
Ouais, bah avec le sous-marin jaune, il y a de quoi faire.
Car on va parler de Villarreal dans un instant, je vous dis pourquoi. On accueille également notre correspondant en direct de Madrid, en Espagne, Edgar Grollo. Salut Edgar!
Salut messieurs, salut à toutes et à tous.
On commence en musique, évidemment.
Allez.
Pas hyper original, mais on envoie la musique s'il vous plaît. Tentative de danse à ma droite quand même, bravo Rémi.
Hochage de tête.
Hochage de tête également chez Edgar, c'est un peu timide tout ça. Mais évidemment, on va parler de Villarreal, avec deux L et deux R, important, hein,
ouais.
Ceux qui veulent l'écrire.
Moyen mémotechnique.
Exactement. Inévitable, Los Mustangs, hein, reprise de Yellow Submarine des Beatles, vous l'avez reconnu bien sûr. Chant des supporters, chant iconique des supporters de Villarreal, au stade de la céramique, qui n'est pas sous l'eau dans ce début de saison, le club, hein, bien au contraire. Troisième de Liga après 10 journées, jamais loin du podium, mais jamais invité depuis 12 ans en fin de saison. Et si c'était enfin la bonne pour Villarreal, quelle est l'ambition du très respecté entraîneur en Espagne, Marcelino? Georges Mikotadze peut-il y jouer un rôle majeur? Nicolas Pepe y faire enfin une saison pleine? Beaucoup de questions et des réponses à venir ciselées de la part d'Edgar et de Rémi. C'est parti pour l'After Espagne. Villarreal a-t-il l'étoffe d'un troisième de Liga en fin de saison? C'est son classement actuel. Tiens, on peut regarder le classement de la Liga, s'il vous plaît. C'est assez intéressant parce qu'on va se rendre compte qu'il laisse derrière eux, et on parlera de budget aussi, des équipes qui sont derrière. Tiens Rémi, on peut faire un petit bilan, quoi, ouais. Ce début de saison.
Troisième de Liga, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 18 buts marqués. Troisième meilleure attaque de Liga et 10 buts encaissés. C'est la meilleure défense du championnat espagnol.
Meilleure défense du championnat espagnol, troisième meilleure attaque. Quand tu fais ça en général, t'es pas loin du titre, hein? Sauf que bon, il y a le Real et le Barça,
ouais,
devant,
puis on
évidemment.
Est en octobre, quoi. Enfin, bientôt novembre. Mais
t'as raison. C'est encore le début de saison. Tu l'as dit, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Edgar, est-ce que Villarreal, là, au vu des chiffres qu'on a, est un troisième convaincant ou un troisième accidentel?
Pour moi, c'est complètement un troisième convaincant. Déjà parce que ils ont réussi à être performants tout de suite. Malgré énormément de recrues, malgré un turnover dans leur effectif qui était très important, il y a plus de la moitié des joueurs qui ont un temps de jeu, on va dire conséquent, j'ai coupé à plus de 300 minutes, ça fait 17 joueurs, il y a plus de la moitié de ces 17 joueurs qui sont nouveaux dans l'équipe, donc c'est pas forcément évident. On a vu d'autres équipes se casser les dents quand t'as autant de turnover dans ton équipe par rapport à la saison précédente, mais tout ça laisse penser que non seulement l'équipe est troisième, mais qu'elle va continuer de construire ses automatismes, qu'elle va continuer d'être de plus en plus performante, et c'est ça qui est convaincant avec cette équipe, c'est qu'en plus de ça, avec la Ligue des Champions, c'est une équipe qui joue avec beaucoup de rotation dans son effectif, il y a beaucoup de buteurs différents, il n'y a pas vraiment de dépendance par rapport à un ou deux joueurs, et c'est ça qui est vraiment encourageant, je trouve, dans cette équipe.
On a fait un gros mercato aussi, Rémi, parce qu'on retrouve la Ligue des Champions cette saison.
Oui.
Cinquième place saison dernière, grâce à l'indice UEFA, la Liga a bénéficié de 5 places, Villarreal en a profité.
Oui, ils en ont profité, et puis ils ne sont pas non plus inintéressants dans cette compétition, parce ils ont fait match nul contre la Juve, qui ne va pas très fort en ce moment, ils viennent de changer d'entraîneur. Ils ont certes perdu contre City, mais c'est une équipe qui est quand même habituée à jouer les compétitions européennes. On se rappelle notamment de l'Europa League face à Rennes il y a quelques
2021,
années.
En 2021, c'était.
Et en 2021, quand ils l'ont gagné, évidemment, contre Manchester United. Donc ouais, c'est quand même, on va dire qu'il a quelques torpilles, le sous-marin jaune.
On rappelle une séance de tir au but dantesque.
Interminable.
Hein. C'était à Gdansk, exactement, en Pologne, la victoire de Villarreal. Marcelino n'était pas encore là, il était arrivé fin de saison, enfin début de saison 2023-2024. Marcelino, évidemment, on s'en rappelle, brièvement en France.
Oui.
Il a l'image d'un fuyard dans la tempête, Marcelino en France. 7 matchs à Marseille, début de saison.
Invaincu.
Et puis, invaincu
à l'époque.
Tout à fait. Mais il est parti. Tellement c'était le bordel, la révolte au sein de la commanderie. Très compliqué. Il s'est dit, mais c'est quoi ce bordel, ce merdier, entre guillemets. Il est rentré en Espagne. On le connaissait de loin, nous, Français. On s'est dit, mais c'est qui ce gars? Est-il un couard, un lâche? Finalement, au bout de 2 saisons à Villarreal, on parle là d'un des entraîneurs, on va en parler dans un instant, les plus expérimentés en Espagne. Edgar, 2 ans après son arrivée, il fait l'unanimité à Villarreal.
Oui, notamment parce qu'il a donné vraiment une stabilité, un équilibre à cette équipe. C'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience et donc forcément qui a des idées qui sont abouties. Et ça se sent parce que c'est une équipe qui est stable, qui voilà, il a implémenté un 4-4-2, qui est bien en place, où on connaît les forces, les faiblesses. C'est une équipe qui est, je trouve, assez compacte. On sent pas énormément d'erreurs de placement, de trucs, des erreurs de philosophie où on voit des défauts évidents dans cette équipe-là. Donc il a vraiment construit quelque chose d'intéressant. Il a requalifié l'équipe pour la Ligue des Champions, ce qui est énorme pour cette petite ville de 50 000 habitants quand même.
Oui,
C'est
tu as
quand
raison de le
même,
rappeler.
À chaque fois qu'ils sont en Ligue des Champions, ce sont des moments historiques. C'est pas du tout un géant d'Espagne. Historiquement, c'est la 15e équipe d'Espagne, si on compte le nombre de points qu'ils ont eu dans leur histoire en Liga. Donc être à ce genre de place et qu'on puisse avoir des podcasts où on se demande s'ils sont armés pour être top 3 de la Liga, c'est vraiment assez énorme ce qu'a fait Marcelino et surtout que maintenant. Quand on regarde l'effectif, c'est pas que Marcelino, c'est aussi la construction de cette équipe. Tu as des joueurs que même un suiveur du foot français connaît, même un suiveur qui n'est pas forcément passionné par cette équipe connaît. Et ils ont vraiment fait un très très gros boulot.
On va parler des individualités dans un instant, bien sûr, celles qui réussissent et les recrues qui sont, tu l'as dit, déjà très bien intégrées à cet effectif de Villarreal. Alors, il y a un penchant offensif chez Marcelino. On a dit meilleure défense. Ça, c'est sa grande réussite. Mais depuis qu'il est arrivé, Villarreal a rompu avec une habitude qui n'était pas la sienne, à savoir planter tous les week-ends quasi.
Ouais, c'est ce qu'on a regardé, ce qu'on a préparé comme infographie grâce à toi, Nico. Hein. On a regardé, par exemple, le classement des meilleures attaques de la saison dernière sur l'exercice 2024-2025. Il est trusté par le FC Barcelone, champion de titre, avec 102 buts marqués. Derrière suit le Real Madrid. Mais en troisième position, c'est Villarreal avec 72 buts marqués. Ceci petit but de moins que le Real Madrid la saison dernière, ce qui prouve quand même que, voilà, et encore une fois, il y a des vrais talents offensifs du côté de Villarreal, en n'oubliant pas qu'ils ont perdu certains de leurs joueurs, notamment Thierno Barry, hein, le Français, qui marquait quelques buts là-bas et qui est parti en Angleterre.
C'était un record, hein, saison dernière, pour Villarreal, ce nombre de buts, 72. Le record précédent, c'était 69 lors de la saison 2004-2005, avec... Écoutez bien quand même, je vais égrener les noms. Diego Forlán, Riquelme, Marco Senna, Santi Cazorla. Quels sont les préceptes de jeu de Marcelino, l'Espagnol? C'est un jeu très vertical, très direct. Hein. On ne se prend pas trop la tête à Edgar, hein. C'est bien ça?
Oui, c'est assez direct, c'est assez vertical. Il se crée pas mal d'occasions. C'est une équipe quand même assez compacte, pas forcément sur le côté, ils restent tous derrière du tout, mais je veux dire où il n'y a pas d'énorme espace non plus avec les joueurs, ce qui a des avantages et des inconvénients. Ça fait par exemple que souvent le milieu de terrain pour les adversaires est assez bouché. On est obligé de passer sur les côtés pour essayer de contourner ce bloc-là. C'est aussi une équipe, comme je disais, qui n'a pas de dépendance. Quand on regarde les buteurs de cette équipe, c'est vachement réparti. Je pense que c'est une marge de progression pour eux et qu'ils ont un joueur par exemple comme Iko Tadze qui commence à planter beaucoup plus, ils vont devenir encore plus dangereux. Mais par exemple un joueur comme Nicolas Pepe qui est l'atout numéro 1, j'ai envie de dire, offensivement, ou en tout cas un créateur d'occasion, un créateur de mouvement qui porte la balle, qui provoque, c'est pas forcément un joueur qui est ultra décisif tout le temps, mais qui donne des ballons aux autres. Et donc je pense que c'est vraiment l'une des forces de cette équipe, c'est qu'elle est assez imprévisible sur qui il faut marquer. Tu vas pas aller faire une prise à deux sur un joueur parce que sinon tu vas être pris par un autre. Donc c'est la force de cette équipe et aussi la force de cette équipe, comme je le disais, c'est une équipe qui a réussi à intégrer des joueurs. Quand tu vois une charnière Foyth, Vega, ils arrivent à très bien marcher ensemble. Vega qui est arrivé cet été et qui est bien déjà bien assimilé à cette équipe là ouais. Je trouve que Marcelino a une force, c'est qu'il arrive à vraiment traduire ses préceptes et les faire comprendre à ces joueurs-là, même les joueurs entrants, et ça c'est pas le cas de tous les entraîneurs, et c'est vraiment à souligner parce que c'est impressionnant de voir que sa philosophie de jeu a vraiment continué malgré tous les changements, malgré des joueurs qui sont partis comme Baena, des joueurs comme ça. T'arrives à retrouver ces idées de jeu-là.
On en parlait également dans un précédent podcast, hein, consacré aux prospects, aux grands espoirs de la Liga qu'on va découvrir cette saison. Il a en plus laissé partir et Tae Young à Levante, hein, prêté par Villarreal. Marcelino l'a vu cet été. Edgar, tu me dis si je me trompe, lui dit écoute, t'as un énorme espoir, j'aurais pas besoin de toi cette année, j'ai besoin de mecs expérimentés.
Oui, et c'est surtout que Tae Young.
Il est déjà à 4 buts cette saison en Liga, hein, Tae Young. Ouais.
Voilà, non, mais c'est l'une des révélations de la saison. Il a un incroyable avenir devant lui. Est-ce qu'il aurait eu le même développement en restant à Villarreal? Peut-être, mais en tout cas, il aurait eu moins de minutes. Donc, ça aurait été un cadre plus compliqué pour lui. Alors qu'à Levante, en l'envoyant à Levante, c'est sûr que là, il peut vraiment exceller. S'il était allé à Barcelone, par exemple, qui s'intéressait à lui, je ne sais pas s'il aurait eu le même développement tout de suite. Ça aurait peut-être pris plus de temps. Et on rappelle quand même que Villarreal a une option de rachat sur ce joueur-là, a aussi une clause où il toucherait un pourcentage de revente si Levante le vend. Donc, ça a été un move. On verra si c'est un move intéressant. Mais en tout cas, je pense que pour Etai Young lui-même, c'est vraiment un transfert qui va lui permettre, et on le voit, hein, ça se confirme, lui permettre de se développer au maximum le plus vite possible.
Alors c'est bien Villarreal, ça surperforme saison dernière, cette saison pour l'instant aussi, meilleure défense, troisième meilleure attaque, encore une fois comme la saison précédente. Mais il va falloir basculer vers autre chose, nouvelle dimension peut-être. Il y a un défi, c'est battre les gros maintenant.
Ouais, parce que quand on voit le classement, alors là, il y a les classements des attaques qu'on évoquait cette saison.
Même que la saison dernière.
D'ailleurs. Voilà, d'ailleurs, avec Barcelone en 1, Real Madrid en 2 et Villarreal en 3 avec 18 buts marqués. Après, au niveau du classement de Villarreal sur ces dernières saisons, c'est vrai que voilà, en 2021-22, ils étaient 7e, et ensuite ils sont passés 5e. En 2023-24, ils repassent 8e. La saison dernière, ils terminent 5e et là, ils sont actuellement 3e. Donc, il faut dire que voilà, une montée en puissance assez linéaire pour le coup, mais il va falloir qu'il se stabilise dans ces hauteurs-là. Voilà, va pas falloir qu'il reste, on va dire, sous la zone d'eau. Pour le sous-marin jaune, tu l'as, c'est là ou pas?
Tout à fait, je l'ai,
voilà.
Évidemment.
Et donc, non, mais du coup, que, voilà, ils concrétisent par le classement leurs ambitions et surtout leur talent.
Et pour ça, il faut aussi pas battre que les petits, il faut battre les gros. Et ça, Villarreal, c'est un vrai problème. Regardez ça. Villarreal contre les gros, ben, ça ne fonctionne pas cette saison, encore une fois, comme les saisons précédentes, de défaite de 0 sur le terrain de l'Atlético de Madrid, 1-0 en Ligue des Champions contre Tottenham, 2 partout contre la Juve, 3-1 face au Real en Liga, défaite 2-0 face à City. Ils n'ont joué que ces 5 gros-là, entre guillemets, hein. Ouais, c'est clairement des gros de toute façon. Cette saison, le reste, ça fonctionne, Edgar. Comment tu l'expliques? On a vu le classement, c'est bien, Villarreal, c'est une sorte de quoi, de Lille un peu espagnole, quoi. 4, 5, 6, 7, réguliers dans ces hauteurs-là. Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il y a un complexe d'infériorité à Villarreal? Tu l'as dit, en plus, petite ville, 50 000 habitants, stade de la Céramique, je crois, c'est 23 000 places.
C'est pas tant que ça. Hein.
C'est pas une grande ville de foot non plus, c'est pas un grand stade de foot, c'est pas une grande tradition de foot non plus.
Oui, exactement. Je pense que ce soit Villarreal ou même leurs adversaires, ils n'abordent pas les matchs face à Villarreal comme ils abordent par exemple les matchs face à l'Athletic Club. Il y a un peu moins un facteur crainte, et pourtant Villarreal est largement au-dessus de l'Athletic Club pour l'instant cette saison. Je pense qu'effectivement, voilà, c'est une petite ville. Historiquement, on l'a dit, c'est pas un grand Espagne, et donc il va falloir passer ce cap. Quand je vois des matchs, même là, on a cité vraiment les très très gros matchs, mais par exemple face au Betis, ils mènent 2-0, ils gagnent pas ce match-là. Face à Manchester City, ils n'existent pas en première période. En deuxième période, ils ont vraiment les occasions pour revenir à 2-1. Ils n'arrivent pas à saisir leur chance. Pour moi, ça, c'est aussi un petit peu le contretemps de ne pas avoir un buteur vraiment phare qui plante tous les week-ends, peut-être. Et j'espère pour eux que Mikotadze va devenir ce buteur, mais ça prendra aussi du temps pour vraiment s'ancrer comme le leader offensif de cette équipe-là. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui manque un petit peu. Il va falloir aussi répondre présent dans ces grands matchs. Et comme on le disait, Villarreal, c'est une équipe très complète. Très complète, qui n'a pas de gros points faibles, donc qui est dur à jouer. Mais en même temps, peut-être qu'il faut aussi ce facteur X qui leur fait passer ce cap. Peut-être ce joueur-là qui va les amener à ce niveau d'au-dessus. Il va falloir passer un cap. On va voir si ça passe par le collectif ou par une individualité qui va vraiment progresser cette saison-là.
Et puis évidemment, les gars, engranger de l'argent. 50% des budgets en Liga, c'est les droits télé. C'est quel budget en termes de classement en Liga, Rémi?
Eh ben, étonnamment, en tout cas personnellement, je pensais qu'ils étaient beaucoup plus hauts. Ils sont 8e budget de Liga. Je pensais qu'ils étaient juste derrière peut-être l'Athletic Bilbao, enfin l'Atlético de Madrid et peut-être le FC Séville. Pas du tout. Quand on regarde le classement, évidemment, Real Madrid premier, Barcelone deuxième avec 896 millions, l'Atlético troisième, Séville et le Betis 4 et 5e, 6e Real Sociedad. En même temps, ils ont joué la Ligue des Champions il n'y a pas longtemps. Il y a l'Athletic Club qui est 7e et donc Villarreal est 8e avec 125 millions d'euros de budget selon Sportune. Donc du coup, c'est assez étonnant, et finalement, c'est là qu'on voit peut-être qu'ils surperforment puisqu'ils sont actuellement 3e au classement. Ça correspond pas du tout à leur budget. Peut-être évidemment qu'ils surperforment, peut-être qu'ils sont tout simplement en train d'entrer dans une nouvelle phase et qu'ils sont en train de monter en puissance.
Il a fallu des années pour assainir les finances aussi. C'est longtemps un club très endetté, Villarreal, qui avait quasiment plus de 400 millions d'euros de dettes. Année après année, il a fallu la rembourser. Ça date maintenant, mais il y a plus de 10 ans, ils avaient été relégués en Liga 2 également, deux saisons avant de remonter. Villarreal, c'est aussi retrouver une stabilité financière. Miko Tadić en a parlé, Edgar. Vas-y, Edgar.
Oui, non, j'allais dire justement, il y a aussi une bonne gestion des derniers mercato, parce qu'on parlait du nombre de recrues qu'ils ont recrutées cet été. C'est le troisième club qui a dépensé le plus d'argent en Liga sur le mercato, et pourtant ils ont une balance positive parce qu'ils ont aussi beaucoup vendu, et ils ont, je pense, intelligemment remplacé des joueurs comme Baina, qui pourrait, ça pourrait sembler une perte immense, et je pense que ça l'était, mais ils ont rebondi tout de suite, ils ont réinvesti cet argent directement dans l'effectif.
Deuxième effectif le plus fourni de la Liga cette saison, avec 27 joueurs. Le premier, c'est Vigo, 28 joueurs. Donc ça montre aussi qu'ils ont un banc derrière.
Ils ont anticipé les deux compétitions, les matchs tous les trois jours, Liga et Ligue des Champions. Miko Tadić, on en parle dans quelques secondes, bien sûr. S'est-il déjà intégré réellement au sein de cet effectif de Villarreal ? Réponse dans un instant dans l'After Espagne. L'After Espagne consacré cette semaine à Villarreal, le sous-marin jaune, avec Rémi Dumont, Edgar Grolot, notre correspondant en Espagne. On a vu clairement surperformance cette saison dernière de Villarreal, eu égard à leur budget, à leur histoire également. Est-ce que ça peut durer ? Tu l'as dit, Edgar, il faut un joueur qui fait la différence, un mec qui s'impose comme un crack en Liga. Et nous, on a pensé bien sûr à Georges Miko Tadić, qui est arrivé l'été dernier, fin de mercato. C'est un sacrifice qu'il a fait, c'est lui qui l'a dit, pour sauver son club de l'Olympique Lyonnais, où il a joué qu'une saison. C'est ça qu'il avait expliqué.
Ouais, et puis il a été vendu surtout pour 31 millions d'euros. Donc c'est
le plus gros transfert de l'histoire de Villarreal.
Et ce qui soulageait les finances de Lyon.
Exactement. Donc énorme investissement sur Miko Tadić. On a laissé partir Eta Yang. On a fait confiance à un homme plus expérimenté, l'international géorgien. Ça donne quoi pour l'instant son début de saison avec Villarreal ? On va regarder ça de suite. 9 matchs.
9 matchs, 7 titularisations, oui. 5 buts.
5 buts maintenant.
Et une passe décisive. Il a marqué dès son deuxième match avec Villarreal. Donc il s'est tout de suite mis dans le bain. Et puis voilà, il est sur les standards de la saison passée avec Lyon, même s'il jouait beaucoup moins parce qu'il y avait Alexandre Lacazette. Là, il a beaucoup plus de place. On le sent en confiance parce qu'au-delà des buts, c'est aussi lui qui initie, peut-être avec Nicolas Pépé, certaines actions offensives de Villarreal, ce qui montre qu'il est en confiance et qu'il est plutôt en jambes, justement.
Quelle image il a ? Est-ce qu'on est satisfait là, au stade de la céramique et à Villarreal, de l'intégration de Miko Tadić, Edgar ?
Oui, comme disait Rémi, je pense que c'est quelqu'un qui a montré, c'est pas seulement un buteur, c'est quelqu'un qui a des qualités balle au pied, qui peut participer au jeu, et puis il est très bien intégré au niveau du club, au niveau des supporters aussi, qui l'apprécient énormément. Sa célébration avec les ronds autour des yeux est devenue déjà un petit peu culte, en tout cas elle a été adoptée par les supporters, et surtout il a une communication qui est intelligente. Vous regardez son compte Twitter, ses réseaux sociaux, il parle en valencien, et donc ça a été très apprécié par
merci Grok, merci Grok sur Twitter ou oui, Google Trad.
J'imagine qu'il le parle pas couramment. En tout cas il a montré qu'il essaye de s'intégrer, qu'il essaye de s'intéresser pas seulement à la culture espagnole, mais aussi à la culture locale de la région, parce qu'il y a une identité très forte tout autour de Valence, et ça, les supporters l'apprécient vraiment. Et d'ailleurs, c'est un joueur qui, avec ses célébrations, avec sa communication, est très mis en avant par le club.
Et sur le terrain aussi, est-ce qu'on le trouve facilement ? Quel est son rôle ? Est-ce qu'il a le même qu'il avait à l'OL ?
Oui, on le trouve facilement. Comme on disait, c'est un joueur qui participe au jeu. On le voit souvent, parfois sur des actions où ça ne se transmet pas directement dans les statistiques. C'est une équipe aussi où les attaquants et les milieux de terrain doivent vraiment participer au pressing collectif. C'est un pressing, on va dire, ciblé, très organisé. Il y participe. Et c'est pour ça que je trouve qu'il s'intègre très bien à cette équipe-là, qu'il est très apprécié, qu'on voit tout de suite qu'il peut avoir un poids dans cette équipe. Pourtant, ce n'était pas évident parce que Tierno Barry, l'année dernière, dans un style de jeu assez différent, était très bon pour eux. Il a dû tout de suite assumer pas mal de responsabilités et il répond sur le terrain. Il répond à la confiance de Marcelino et surtout, je pense qu'il va de plus en plus, dans les prochaines semaines, montrer toute sa personnalité, prendre encore plus de poids dans cette attaque pour vraiment s'y affirmer. Et je pense surtout que Villarreal en a besoin pour passer ce cap dont on parlait.
Un nom de Ligue 1, un autre nom de Ligue 1, il y en a plusieurs dans cette équipe de Villarreal, c'est Nicolas Pépé. Bon, lui, il est parti il y a longtemps de notre championnat, il est passé par Nice quelques années après avoir brillé, s'être révélé à Lille, Turquie, Trabzonspor, Arsenal pendant plusieurs saisons, c'est le gros de sa carrière. Ça donne quoi, Nicolas Pépé ? Nous, on a l'image à distance d'un joueur frustrant. Depuis sa meilleure saison, c'était à Lille. Il avait fini en 2018-2019 à 22 buts, 11 passes, ce qu'il n'a jamais refait depuis, hein, d'ailleurs.
Ouais, on voit les stats. Alors, cette saison, c'est 2 buts et 2 passes décisives. Pour 927 minutes jouées, il a été élu joueur du mois d'août en Liga. Il était élu aussi homme du match face à la Juve en Ligue des Champions. Nicolas, toi, tu avais compté ces statistiques depuis qu'il est arrivé à Villarreal. C'est 41 matchs, 5 buts et 8 passes décisives. Mais
c'est pas arrivé comme ça sur le papier.
Non, mais c'est ce que disait Edgar. C'est-à-dire que peut-être que statistiquement, ça ne se traduit pas forcément. Mais c'est un joueur vraiment qui... Bah, c'est lui, et je parle sous le contrôle d'Edgar, hein, qui initie principalement les actions offensives et le danger du côté de Villarreal.
Il doit faire plus, Edgar, quand même. Sincèrement, Nicolas Pépé.
Oui, statistiquement, il doit faire plus. Maintenant, même avec ces statistiques-là, il est nommé joueur du mois d'août de toute la Liga. Donc, c'est quand même...
Parce qu'il fait deux buts, une passe, c'est ça, sur le mois d'août, c'est ça ?
Oui, mais au-delà aussi de ça, c'est surtout sa participation dans le jeu. Sincèrement, c'est lui le détonateur numéro un de cette attaque-là. Alors, on va voir l'importance que va commencer à prendre Miko Tadze, mais c'est vraiment un joueur très important dans la création. Il touche énormément de ballons et sur sa polyvalence, c'est l'un des meilleurs joueurs offensifs de Liga, sans aucun doute, aujourd'hui. Et je pense qu'il peut évidemment passer un cap sur les statistiques et surtout, il l'a montré par le passé qu'il en était capable. Mais est-ce qu'il a forcément exactement le même rôle ? Je pense pas. Dans ce 4-4-2 de Villarreal, et c'est surtout quelqu'un qui provoque, qui crée des occasions, qui crée aussi de l'incertitude chez les attaques adverses, parce que c'est un joueur qui est difficile à cerner, qui est difficile à stopper, qui est difficile à prédire. Il a pas du tout un jeu qui est stéréotypé, donc c'est sa force. Maintenant, évidemment qu'il peut faire mieux au niveau statistique, ça y a aucun doute là-dessus, et surtout qu'on connaît ses capacités et on sait qu'il en est capable. Et s'il passe un cap, Villarreal prendra, mais je pense pas que ça soit la première chose qu'on lui demande.
Alors, voilà pour Nicolas Pépé, voilà pour Miko Tadze. Vous voyez la liste que tu as préparée, Rémi, des joueurs de Ligue 1, anciens de Ligue 1, aujourd'hui à Villarreal. On a aussi Pape Gueye, bien sûr.
Il y en a 7. Donc, Nicolas Pépé passé par Lille, Pape Gueye par Marseille, Logan Costa par Toulouse, Willy Kambala formé à Sochaux, passé par Manchester United et aujourd'hui à Villarreal, Georges Miko Tadze, Marcelino, donc l'entraîneur, et Arnaud Tenas, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain. Et tu voulais qu'on parle de Pape Gueye, oui. Leur milieu de terrain, c'est un peu lui le patron du milieu de terrain. 14 matchs joués cette saison, 2 buts, une passe décisive pour 961 minutes jouées. C'est le deuxième joueur le plus utilisé par Marcelino cette saison, toute compétition confondue, à Villarreal. Ce qui montre l'importance du joueur. Et d'ailleurs, c'est un joueur que Marcelino a connu à Marseille. Il était en fin de contrat à l'OM, il l'a rejoint à Villarreal. C'est vraiment, je pense, l'un de ses relais sur le terrain. Et ce qui prouve aussi qu'il peut faire transmettre ses principes de jeu, comme le disait Edgar, à ses joueurs grâce à ce style de joueur.
Il s'est affirmé en Espagne, Pape Gueye, Edgar.
Complètement. Je pense qu'en début de saison, si j'avais dû citer un joueur taulier de cette équipe, j'aurais cité Pape Gueye, parce que il est partout. Quand tu regardes un match de Villarreal, il est à la récupération. Après, tu le vois tenter des frappes devant la surface, tu le vois se projeter avec ballon, sans ballon, tu le vois faire des passes. Il est vraiment très important. C'est un joueur qui répond présent défensivement, offensivement, porte aussi, qui a une voix qui porte, que ce soit sur le terrain, dans le vestiaire, parce que c'est un joueur aussi très apprécié. Il faut comprendre qu'il y a une sorte de petites troupes francophones dans le vestiaire, où ils sont très amis ensemble. Ils s'entendent très bien, notamment avec Nicolas Pépé, avec Logan Costa. C'est vraiment un vestiaire où il y a cette bande francophone qui met sa musique, qui rigole entre eux et avec le reste du groupe. Donc c'est un joueur très important pour cette équipe là on s'est posé la question de voir s'il allait rester quand on a vu que Thomas Partey allait arriver. Il est resté, et tant mieux pour Villarreal, parce que c'est vraiment vraiment un joueur indéboulonnable, je pense, de cette équipe là et surtout qui répond présent. C'est un joueur très régulier dans ses performances, dans son niveau d'intensité aussi dans les duels. Donc comme disait Rémi, un relais de Marcelino sur le terrain.
Et il ne faut pas oublier aussi qu'il avait fait un court passage, parce qu'il était prêté par l'OM à Séville. Je pense que c'est ce qui lui a permis aussi, en arrivant à Villarreal, tout de suite être dans le tempo et comprendre le style de jeu de l'Espagne.
Et puis lui, au moins, il n'a pas de procès en attente. Ça, c'est le cas de Thomas Partey, que tu as cité, Edgar, bien sûr. On rappelle quand même l'affaire autour de son arrivée. L'Angleterre n'en voulait plus, un peu comme Mason Greenwood, qui est dans une situation, lui, réglée de son côté, sur le plan judiciaire en tout cas. Thomas Partey, je rappelle, est toujours poursuivi pour viol et agression sexuelle. Il a été libéré sous caution. Et il connaît la date de son procès depuis quelques jours déjà. Ce sera le 2 novembre 2026, dans un an. Mais Villarreal a quand même voulu qu'il vienne absolument. Comment ça se passe, tiens, avant de parler de ses prestations sur le terrain, Edgar, l'impression qu'il n'a pas encore réellement lancé son aventure en Espagne et à Villarreal. Comment est commentée encore sa présence aujourd'hui à Villarreal en Espagne? Comment il a été accueilli d'abord surtout?
Alors, ça a été très commenté évidemment à son arrivée, même dans le communiqué d'annonce de Villarreal pour sa signature. C'était assez particulier parce qu'il y avait la moitié du communiqué qui expliquait, voilà, on recrute un joueur qui était titulaire à Arsenal, etc. Et après, il commence la fin du paragraphe en disant quelque chose comme, ceci étant dit, on est au courant que, et ils expliquent, voilà, qu'ils sont...
C'est bien qu'ils soient au courant,
femmes,
c'est pas mal.
Etc., non, à la parole des victimes, mais c'est quand même... très très compliqué quand dans un communiqué d'annonce t'es obligé déjà de te justifier de ton propre recrutement j'avais été assez faut dire assez surpris par l'accueil de la Ceramica quand il est rentré. C'est vrai qu'il y avait beaucoup plus d'applaudissements que de sifflets, ce qui peut surprendre. Ça avait fait du bruit à ce moment là mais honnêtement, vu d'Espagne depuis ses premiers pas sous le maillot de Villarreal, on n'en parle pas tant que ça, plus tant que ça, parce que c'est pas un joueur phare, c'est pas, enfin, pour l'instant, c'est pas un joueur vraiment phare de l'équipe et c'est pas dans une équipe extrêmement médiatisée non plus. Donc, ces histoires extrasportives de Thomas Partey, elles sont pas tant commentées que ça en Espagne ces dernières semaines.
Bon, voilà pour Thomas Partey. On a fait le tour de Villarreal, bien sûr, qu'on va accompagner toute la saison. Troisième pour l'instant. On va les suivre aussi en Ligue des Champions. Arnaud Tenas, tu l'as cité, est également là-bas. Il y a concurrence entre gardiens avec le Brésilien Luis Junior. On en reparlera au cours de la saison.
Et pas oublier Logan Costa, qui s'est fait les croiser en tout début de saison, qui était un des titulaires indiscutables en défense. Oui. Mais voilà, Villarreal continue, mine de rien, à performer sans lui, même s'il reviendra, je crois, pour mars, il me semble.
Voilà, merci les gars, on s'est régalé cette semaine encore une fois. Merci à toi Rémi. J'ai pas eu... Si j'ai eu un jeu de mots quand même, merci. Edgar, merci à toi. Bonnes vacances Rémi. Tu pars 15 jours en vacances, j'ai l'impression.
Je prends des vacances, je ne pars pas, mais je vous écouterai et regarderai avec.
Tu nous enverras quand même tes idées.
Tu peux pas nous faire ça, Rémi.
Si vous voulez, hein, mais bon, après, voilà quoi.
Non, on peut être indépendant quand même. Merci à tous, merci également à Samantha Zweck, à Flavien Zolkowski. Et toute notre bande en régie. C'était le podcast After Espagne. Vous pouvez mettre un petit cœur, ou non, des étoiles, rien à voir, Luc.
Mettez des cœurs aussi, c'est
des pas étoiles et vous abonner au podcast. Merci à tous. Bye bye.
Ciao.
RMC After Espagne.